Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Dorcy Rugamba. Vers 19h45, le son du jour, ce sera Ice Cream Piano de Vampire Weekend. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir dans le Maine-et-Loire, à l'abbaye royale de Fontevraud, un lieu qui s'est en effet lancé dans un programme de refonte des 6 cloches de son abbatiale qui avait été retirée à la Révolution française. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Guillaume Ficheux à la prise de son. Bonsoir Dorcy Rugamba.
Bonsoir.
Vous venez de publier Ewaranda, lettre aux absents chez J.C. Lattès. Je vous reçois 30 ans et un jour après que la plus grande partie de votre famille a été assassinée au premier jour du génocide des Tutsis au Rwanda. France Culture consacre depuis plusieurs jours de nombreuses émissions à ce sujet. Je me souviens avec une très grande précision des émissions que nous avons faites en direct de Kigali il y a tout juste 15 ans dans le plus beau pays du monde, selon moi, où se commirent les crimes les plus atroces. Alors vous êtes né, vous, Dorcy Rugamba, en 69 à Kigali. Vous êtes le fils de Cyprien et d'Afrosa Rugamba. Et ce livre qui vient de paraître s'adresse pour beaucoup à elle et à lui. Votre père était l'un des écrivains, poètes, chorégraphes les plus célèbres du Rwanda. Et aujourd'hui, vous dites que 4 générations de Rwandais peuvent réciter par cœur certains de ses poèmes. Il dirigeait par ailleurs un ballet traditionnel rwandais. Il avait créé un théâtre à ciel ouvert, un itorero, une sorte d'académie des arts, selon le modèle rwandais. Votre père a aussi été haut fonctionnaire, conseiller ministériel, conservateur du musée de Butare, chercheur en linguistique, directeur de l'Institut national de recherche scientifique. On va beaucoup parler de lui. Votre mère, elle était enseignante, puis elle s'est dédiée à l'éducation de ses 10 enfants. Alors, s'ils ont eu des rapports fluctuants avec la religion, on va dire ça comme ça, ils ont fondé en 1990 la communauté L'Emmanuel, dans le courant du renouveau charismatique catholique. Ça, c'est pour la biographie, disons, officielle, mais pour vous, ce seront Rwamo et Marembo. Quelle est l'origine et la portée symbolique de ces noms d'élection?
Le mot « inore » lui-même veut dire « élu ». Alors c'est élu dans le sens où un itorero, une académie des arts au Rwanda, c'est un peu comme en Afrique ou au Japon en fait. Quand on va vraiment dans une école, on vient apprendre une pratique artistique, mais on vient à la rencontre d'un maître qui va pas seulement vous apprendre à chanter ou à danser ou à jouer d'un instrument, mais un rapport au monde, à la vie, à toute une série de valeurs et de relationnels. Et c'est lui qui vous élit et qui vous donne un nom. Et à partir de là, au sein même de cet ensemble, on ne porte que son nom d'élection, qui porte en soi à lui-même pratiquement une qualité. C'est comme un idéal que l'on souhaite à quelqu'un, c'est un vœu.
Alors, que signifiaient les noms d'élection de vos parents?
Alors, le nom d'élection de mon père, Rugwamo, veut dire en fait Rugwamo, Rugimundu et Mundu. Ce sont des cris d'allégresse que les mères font quand il y a un moment joyeux. Et Rugwamo lui-même, c'est une clameur en général dans un corps de danse au Rwanda. Les danseurs ont tous un panégyrique. Et puis, à un moment où chacun lance son panégyrique et ça monte ensemble et c'est une clameur. Et cette clameur-ci qui correspondait à son Rugwamo Rugimundu, c'est une clameur de joie. C'est vraiment presque comme mission, comme assignation de quelqu'un qui doit dispenser de la joie. Marembo, le nom complet c'est Marembo Ata Inyamibga. Marembo c'est vraiment l'entrée dans l'enclos d'une demeure rwandaise. Ata Inyamibga c'est l'enclos des génisses. C'est un nom vraiment qui signifie pratiquement la maternité dans le sens de protéger les enfants, les plus faibles.
Alors, source de joie, protection, havre de paix, ils l'ont été tous deux jusqu'à leur dernier jour. Alors, j'en veux pour preuve votre premier choix musical pour cette émission, parce qu'on va écouter Urukundo, une chanson écrite par votre père, qu'on va entendre chanter ici par Chrissy Knitt. Alors, il y a plusieurs raisons à ce choix dans Sirogamba, ce texte que nous allons entendre, où il est notamment dit « Mes chers enfants, je vous ai donné l'amour en héritage ». Que l'amour soit le principe qui guide votre vie partout où vous allez, qu'il soit la beauté qui vous distingue dans les moments de ténèbres comme dans les moments de grâce, que rien ne vous intimide, n'ayez pas peur car l'amour a vaincu la mort. C'est la dernière chanson ou l'une des dernières écrites par votre père ?
C'est la dernière, c'est le chant du cygne. Je l'ai réalisé longtemps après qu'il est parti là-dessus. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que je me suis rendu compte que c'était son testament. Et il est parti en laissant ce message, je vous laisse l'amour en héritage. Et en y pensant, je me suis dit, tiens, il peut pas y avoir de plus grand héritage que celui-là. Quelque part, anticipant même le moment des ténèbres qui allait suivre, il indiquait la seule voie de sortie. C'est-à-dire que les temps seront certainement durs, mais il faut pas se construire dans la rancœur. Il faut garder, même si ce sera difficile, de l'amour comme principe.
Mais il avait déjà écrit, bien avant le génocide, tout un texte qui était quasiment prophétique aussi.
Oui, absolument. Je parle dans le livre d'un des textes, en tout cas, qui est apparu vraiment au début des années 80, qui est sorti 82, en 82.
Je crois, c'est ça.
Et c'est au moment en 82 où il sort sur les ondes. Et qui est un texte et qui est devenu un chant prémonitoire, qui est vraiment écrit comme un cauchemar où il fait un songe, où il voit le pays à feu et à sang, avec des torrents de sang qui coulent du nord au sud du pays, et les responsables, plutôt que de s'interposer, distribueraient des armes. Et à l'issue d'ailleurs de ce chant, il est tombé dans une déprime totale pendant une année.
Et puis le choix musical qu'on va découvrir porte aussi quand même sur son interprète, Chrissy Knitt.
Oui, Chrissy Knitt, qui est son nom de scène. Oui. Vraiment, c'est un nom d'élection, mais comme dans la jeune génération, il se donne des noms qui parlent à la jeunesse aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est un enfant qui est né après et qui a souhaité réinterpréter à sa manière, ce chant, de le mettre dans sa composition elle-même, dans son interprétation. Et pour moi, c'est une victoire sur la mort, de voir qu'un poète... en fait, c'est difficile de tuer un poète, parce que sa vie va bien au-delà des conditions végétatives, et qu'il poursuit, et qu'il est dans la mémoire et dans le cœur des vivants.
Comme avec cette jeune interprète, Chrissy Knitt, qu'on écoute chanter « Urukundo ».
Mure,
Alors vous avez grandi, Dorcy Rugamba, à Butare. Vous avez été formé très jeune à la tradition rwandaise de la danse, de la prise de parole, de l'art de la scène au sein du ballet de votre père. C'est l'éducation dans l'idéal des Intore qui au départ sont des guerriers, mais à qui on donne une formation intellectuelle, sensible, physique. Pour autant, vous ne dites pas ressentir une vocation particulière à ce moment-là et vous entamez des études de pharmacie. Mais malgré tout, vous fondez quand même un premier troupe de théâtre, Isango, en 92, vous avez 22 ans. Qu'est-ce que vous jouiez avec cette troupe-là?
En fait, c'est venu dans un moment particulier. Hein. Je suis entré à l'université en 89 et en 90, la guerre civile éclate. Et le pays va changer assez vite, comme dans un temps de guerre. C'est un temps accéléré où les mentalités changent très vite, y compris à l'université. Et avec quelques amis, il nous a semblé qu'il était important, en tout cas, de créer cet ensemble qui comporterait à la fois une compagnie de danse, une compagnie de théâtre et un bureau de conférence. On jouait, en fait, des classiques africains. On prenait des textes, on n'écrivait pas, mais on prenait des textes qu'on trouvait, qui étaient déjà là, comme l'Os de Morlam, ou des textes souvent des auteurs d'Afrique de l'Ouest, plus souvent. Et le bureau de conférence nous permettait d'inviter des aînés, des leaders d'opinion, des gens, parce que le pays changeait très vite. Et quelque part, nous souhaitions, tiens, prendre le pouls et comprendre ce qui est en train de nous arriver.
Alors, je vais faire là un saut dans le temps, et bien sûr, on reviendra à ce que décrit Ewa Rwanda, votre nouveau livre. Mais après le début du génocide et votre exil en Belgique, vous allez terminer là-bas vos études de pharmacie. Mais dès 96, on vous propose une collaboration pour la création d'une pièce qui deviendra Rwanda 94, première œuvre artistique, on va dire, qui porte sur ce génocide des Tutsis. C'était le collectif théâtral Groupop et Jacques de Culvery qui initie cette idée-là avec six auteurs, dont vous, qui sont associés à son écriture. C'est un processus de création qui va être long. Il y aura plusieurs étapes qui seront montrées. Je me rappelle d'Avignon 99, par exemple. Mais ce travail, est-ce que c'est ce qui vous a décidé, vous, dans Dorcy Rugamba, à vous consacrer pleinement au théâtre?
En quelque sorte, oui. Mais déjà, je ne pensais pas vraiment pouvoir faire le métier de pharmacien. Juste après, ça m'a beaucoup questionné. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que c'est ce que je souhaite faire? Je n'étais pas certain vraiment de pouvoir continuer dans cette voie. Puis un ami que je salue, qui s'appelle Gassana Douba, m'a parlé de cette initiative qui commençait à Liège. Et je suis allé à Liège à la rencontre de ce collectif, initié depuis plusieurs années d'ailleurs avant, par Jacques Delcuvelry, par son épouse Marie-France Collard, par beaucoup d'artistes, à une époque où la question même du crime, de la nature du crime, était toujours en débat, y compris aux Nations Unies. On ne savait pas est-ce qu'il s'agit d'une violence endémique, d'une haine ancestrale entre tribus africaines qui s'entretuent comme depuis la nuit des temps, comme ça a pu être écrit comme ça, ou alors vraiment un génocide. Et cette question était dans l'air pour tout le monde. Et ce serait une aventure extraordinaire parce que, d'abord, comme j'ai continué dans le théâtre, les conditions de création des pièces de théâtre à l'époque étaient différentes. Il y avait plus de temps, plus de moyens avant la crise de 2008. Et donc, c'était une longue période de recherche, de plonger dans les archives rwandaises. Et ça m'a permis moi-même de comprendre ce qu'était ce pays sur un siècle. La première rencontre du Rwanda avec les pouvoirs coloniaux allemands, d'abord, c'était en 1894. Et le génocide se passe en 1994, un siècle pile. Donc, il fallait plonger complètement dans toute cette masse de données. Et ça a été un moment où ça m'a paru très clair que ça devait quand même être ma voix, parce que j'y prenais beaucoup plus, d'abord beaucoup plus de plaisir, et ça avait beaucoup plus de sens, vu ce qui venait d'arriver. Je n'avais pas de réponse non plus. Comment est-ce qu'on survit à un événement pareil? On était encore tous estourbis, étourdis par l'événement qui était gigantesque. Et c'est après, en fait, en cours de représentation de Rwanda 94, parce qu'après, Jacques m'a demandé, en plus du travail d'écriture,
de jouer.
Et en jouant, j'y ai pris du plaisir. Il y avait un des acteurs aussi qui était le professeur Max Parfondry, professeur du conservatoire, et c'est lui qui m'a dit « Tiens, mais pourquoi tu ne ferais pas le concours ?»
Conservatoire royal de Liège.
Et oui, voilà, c'est comme ça que je suis rentré au Conservatoire royal de Liège, et qu'à partir de là, j'ai décidé que ce sera ma vie.
Et puis, vous y recevrez le premier prix d'art dramatique dans Ciro Gomba. Depuis, vous avez donc écrit pour le théâtre, mis en scène, joué dans vos propres créations, mais aussi dans celles d'autres auteurs et metteurs en scène. Avant d'évoquer ce pan de votre parcours, je vous propose d'écouter cette archive d'Aimé Césaire. C'était au micro de José Pivin en 66 sur France Culture.
Je pense que la préoccupation que j'ai à l'heure actuelle du théâtre provient en grande partie de la situation même dans laquelle se trouvent les peuples noirs. Les peuples noirs sont confrontés à l'heure actuelle avec de très grands problèmes, avec d'immenses problèmes. Je dois dire que je suis souvent angoissé quand je pense à l'avenir de ces pays africains, ou au sort des nègres américains, ou au sort des Antilles. Et alors, il me semble que cette problématique même débouche tout naturellement dans le théâtre. Parce que le théâtre, dans mon esprit, n'est pas du tout un théâtre de mots d'ordre. Il ne s'agit pas tout simplement d'apporter une réponse toute faite. Je considère que le théâtre, c'est la vie qui réfléchit sur elle-même pour essayer de se saisir et de s'appréhender. Et par conséquent, il est tout à fait normal qu'au moment où l'Afrique se cherche, on voit apparaître un peu partout dans tous ces pays-là un besoin de théâtre. Il y a une faim de théâtre. Et j'ai essayé, de mon côté, de répondre à ce besoin.
Alors peut-être pour réagir à ce propos d'Aimé Césaire dans Ciro Gomba, on peut évoquer votre triptyque écrit entre 2007 et 2012, Bloody Niggers, Marketplace et Guerre Sainte. Alors je ne sais pas si au départ pour vous c'était un triptyque, mais comment sont nées ces pièces-là que vous avez écrites?
Je voulais travailler sur une matière dont je ne suis pas du tout expert, mais j'aime beaucoup les archives. Je crois qu'avant que je n'aille faire des études de pharmacie, ma vocation, telle que je la pensais à l'époque, c'était de faire l'histoire. Je voulais vraiment faire l'histoire, et puis on ne m'a pas permis, parce que c'était l'État central qui décidait à l'époque. Mais j'aime beaucoup les archives et les données, et des données qui peuvent paraître secs, et notamment, je voulais vraiment écrire au théâtre, mais en partant de l'économie. Voir comment l'économie conditionne la vie des gens. Et la première pièce qui s'appelle Bloody Niggers, c'est une sorte de généalogie du génocide. De voir que cette histoire qui est arrivée au Rwanda en 94 a une histoire qui la précède.
400 ans d'histoire.
400 ans d'histoire. Et je dis toujours que les crimes de masse se tiennent par la main. Et que si les contextes peuvent être différents, les moyens différents, mais quand même le sature du crime peut être le même. Et c'est là où les mémoires peuvent dialoguer. Aujourd'hui, on oppose les mémoires, ce que je trouve inutile et vain, alors que les mémoires peuvent dialoguer. Elles ont vocation à dialoguer, d'ailleurs, pour qu'elles puissent instruire les gens, pour qu'on puisse... Et l'Afrique est emblématique de ça, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie, quand même, de notre histoire que nous n'avons pas reçue à l'école, et qui est devenue pratiquement un savoir apocryphe. Et là, encore une fois, j'ai passé beaucoup de temps à exhumer des faits, à essayer de comprendre quel chemin nous avions parcouru en tant qu'individu, mais aussi en tant que produit de l'histoire, pour en arriver à un crime de la sorte, et puis, d'une certaine manière aussi, pensant aux spectateurs, et surtout au Rwanda, je pense que ça aide de se désenclaver l'esprit, de savoir que ce qui s'est passé là, c'est déjà aussi passé dans le temps et ailleurs. Et que ce n'est pas une exception, que c'est totalement compréhensible et qu'on peut transcender cela par le savoir. Marketplace, c'est une... Alors là, pour le coup, c'est une pièce radiophonique. Une confrontation entre un politicien et un économiste de la décroissance. Et Gamblers, alors ça, c'est vraiment... Je voulais descendre, non plus regarder l'économie sur un plan macro ou global, mais descendre vraiment à hauteur d'individu. Voir ce que cette soif de l'argent et cet attrait du profit fait sur les individus et les rapports entre eux. Et c'est vraiment une histoire entre quatre personnes en Afrique dont un sacrifie son filleul. Et voilà, c'était cette descente dans l'économie.
Toujours plus près, et plus près peut-être aussi de vous, mais justement sur l'histoire et la nécessité de raconter une autre voix à vous faire écouter, puisque en 73, déjà, au Rwanda, les élèves Tutsi avaient été chassés des écoles, les fonctionnaires aussi de leur poste, certains seront assassinés à cette époque-là. Les parents de Scholastic Mukasonga ont décidé de l'envoyer à ce moment-là au Burundi, et ils me racontaient cela dans cette émission, c'était en octobre 2022.
Mes parents ont dit, tu as un passeport international, tu as pu aller à l'école, tu as appris le français, avec le français, tu vas sauver la mémoire de la famille, tu pars. Tu as obligation de partir dans la nuit. Et c'est une nuit, d'ailleurs, il pleuvait beaucoup, et ce qui était très bien, comme ça, ça me protégeait, donc je pouvais me glisser, ne pas... Et puis, la douane, les militaires qui sont à la douane entre le Rwanda et le Burundi. Donc, on était dans le dernier village des réfugiés, on était à 40 kilomètres du Burundi. Donc, je devais avoir atteint le Burundi avant que le soleil ne se lève. Fait de ces 40 kilomètres dans la nuit. Et donc, là, nous sommes en 73, le génocide arrive en 94, ça fait 20 ans. Donc, j'avais oublié que j'avais la mission d'être la mémoire de la famille. Mais à partir du 7 avril 94, malheureusement, cette mission devenait réalité. Je me devais absolument trouver un moyen d'être la mémoire, d'être à la hauteur, d'être la mémoire de la famille. Et il n'y avait pas une autre solution que l'écriture. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, mais pas dans l'intention de publier. Je faisais comme Primo Levi. J'écrivais sur tout ce qui tombait sous ma main. Et en premier, je me suis procuré un cahier de courrier parce que je voulais quelque chose qui soit intime. N'importe quel objet de votre enfance vous permet, vous avez besoin de vous bercer. Donc, le cahier de courrier absolument m'a apporté une douceur, un calme qui me permettait en effet de pouvoir commencer à sauver la mémoire. Parce qu'en fait, c'est qu'à ce moment-là, vous avez une angoisse permanente. Vous vous dites, la mémoire va s'effacer. Et si la mémoire s'efface, pourquoi j'aurais été survivante? Donc, j'aurais failli à la mission que mes parents m'ont confiée.
Alors, ce que disait là Scholastic Mukasonga, c'est ce que vous expliquez dans la deuxième partie de ce nouveau livre, « War Rwanda » d'Orsi Rugamba. Alors, il faut expliquer qu'il y avait un premier texte, Marembo, écrit en 2005, 10 ans après le génocide, et que cette deuxième partie de ce nouveau livre, elle est en quelque sorte à la fois le making-of de Marembo, mais aussi elle va plus loin, met à jour un secret de famille. Mais je reviens à ce devoir d'écriture en lisant ce court passage de votre livre où vous adressez à votre père. J'ai commencé à t'écrire dès que j'ai senti ma mémoire bouger. Je voulais fixer tous les moments passés ensemble avec des mots d'avant, avant qu'ils ne soient vidés de leur substance, avant que le temps n'achève son travail d'érosion, avant que je ne change moi-même complètement pour devenir un autre. C'est ce que dit aussi Scholastic Mukasonga. Mais avant de pouvoir le faire, vous aussi, dans Sirugamba, vous avez traversé une dépression. Qu'est-ce qui vous a fait vous relever, littéralement ?
La dépression arrive dans des moments inattendus. Moi, je suis parti du Rwanda dans des conditions assez confortables, finalement, par rapport à ce que d'autres ont traversé. Et je n'ai pas vu de mes propres yeux, je ne suis pas témoin d'actes de meurtre, donc je ne suis pas hanté dans mes nuits par des scènes atroces. Le premier constat que je ferai du génocide, c'est quand je rentre chez moi et que je suis confronté au vide. Et le vide, j'y ai été confronté deux fois, à la fois en rentrant dans ma maison, chez nous, mais aussi en retournant à Boutaré, une ville que je connais presque par cœur pour y avoir toujours vécu dans la première partie de ma vie, et de me rendre compte que, tiens, une première partie de la ville avait été tuée et l'autre avait fui. et que la ville était là comme un décor intact, mais qu'il n'y avait plus aucun visage que je pouvais reconnaître. Et ce vide va me happer au fil du temps, d'autant plus que je me trouvais loin, à l'étranger. L'Europe aussi, c'est un continent de la solitude où on est souvent seul. Et je vais connaître une période où je n'ai plus rien sur quoi me rattacher vraiment pour tenir, où je me sens le goût part, je me sens glissé, je n'ai plus envie de rien, je passe mes journées à regarder des séries américaines quasiment, presque comme par une forme de lobotomie. Et je commence à me dire, tiens, c'est quand même peut-être je vais vers la fin. Et ce qui va me réveiller, c'est la lecture d'un recueil de poésie de mon père, qui s'appelle Ami Boutilo, où je retrouve une partie dure, une période noire de sa vie, où pratiquement il décrit les mêmes moments que ceux que je suis en train de traverser. Mais surtout, il écrit que il doit pas. Alors, ça venait après une longue période de rancœur, où effectivement, parfois, on a l'impression que tiens, il faut rendre le mal par le mal. C'est difficile d'échapper parfois à des sentiments de haine quand on a subi aussi une violence comme celle-là, et qu'il encore une fois proposait une autre forme de sortie, de dire, faut pas que l'amour se transforme en haine. Et j'avais l'impression qu'il venait là me secourir, me sortir de l'impasse et me lifter, me sortir relever, en fait, ouais. Complètement me relever. Mmh. Et c'est pas la littérature, c'est pour ça que la littérature me tient beaucoup à cœur.
Mmh. Alors cet élan, pour le coup, cette pulsion de dire, de faire vivre les souvenirs des disparus, de maintenir la créativité des vivants, alors vous l'avez exploré de multiples façons depuis. En 2012, il y a eu la création du Rwanda Art Initiative pour professionnaliser l'industrie culturelle artistique au Rwanda, pour aider les jeunes artistes avec un incubateur à Kimi, aussi chez vous. Mmh. Il y a eu la création en 2019 de la maison d'édition Moyo pour faire éditer en Kinyarwanda des romans. Oui. Le premier, c'était Petit Pays de Gaël Faye, que vous avez fait traduire en Kinyarwanda. Vous avez aussi, donc, au mois de février dernier, créé une triennale à Kigali, là encore, célébrer l'art contemporain sous toutes ses formes. Mais il y a eu aussi votre œuvre Mourinzi, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a été retransmise à la télévision. C'était au moment du 25e anniversaire de ce génocide, pour cette commémoration en 2019. C'est donc un spectacle, une forme opératique qui a touché un grand nombre de Rwandais. Pour vous, ce spectacle, il avait quelle fonction ?
Il est arrivé 25 ans après. Et 25 ans après, donc, on était déjà au contact des premiers adultes nés après. Et je pense que c'est presque une génération après, et les œuvres d'art ont une importance. Je crois que, au théâtre en tout cas, selon les périodes, la nécessité n'est pas la même. Disons qu'au lendemain du génocide, il fallait vraiment, comme c'était le cas avec Rwanda 94, apporter la preuve de la nature de ce qui s'était passé. Mais 25 ans après, la nature est connue, la qualité de génocide est acquise pour la communauté internationale, sauf peut-être pour les milieux négationnistes qui ne changeront jamais. Alors, quelle était la nécessité ? Et c'est longtemps après qu'on commence à se rendre compte que peut-être les victimes commencent à disparaître. Pas parce que le récit n'existe pas, mais qu'ils disparaissent derrière les nombres, qu'ils ne deviennent plus que des données numériques. Devant le gigantisme de l'événement, les chiffres sont impressionnants, il y a les faits, il y a les dates, mais les dates sont et les faits sont souvent secs. Et bon, on ne sait pas qui étaient ces gens. Et je me suis posé la question pour ces jeunes-là, qui ne les ont pas connus, qui ne les ont pas côtoyés au quotidien, comment peuvent-ils se faire une idée de qui étaient les personnes Alors, aussi pour les victimes, parce que pour qu'on puisse les connaître autrement que à travers les conditions atroces de leur disparition. Et j'ai demandé à pas mal de témoins de me raconter la vie de leurs proches, mais dans le moment heureux. Et de confier cette forme opératique à des jeunes artistes, pour que ce soit eux qui portent cette histoire, puisque désormais il faut qu'il y ait un travail de transmission, et qu'elle passe aussi en musique, parce que la musique c'était quand même un véhicule le plus populaire, qui s'imprime, une chanson on peut l'apprendre plus facilement par cœur, et que il y avait ce refrain qui disait « tu me manques » réellement, comme un message adressé aux défunts. Et je me suis beaucoup inspiré alors du culte des ancêtres tel qu'il se pratiquait au Rwanda, ou sur les lieux de vie d'une personne qui a disparu, les anciens plantaient un arbre qui était souvent un grand ficus, et ce grand ficus s'appelait Umurinzi, dont le nom signifie « veilleur », et que finalement nous confions, nous et même en tant que nation, aussi à la bienveillance des ancêtres. De cela, qu'il veille sur nous. Et un arbre aussi, c'est quelque chose qu'on, c'est un être vivant qu'on peut continuer à arroser à travers les âges. Un ficus peut passer plusieurs siècles. Donc, en les arrosant aussi, on prend soin de la mémoire des disparus.
Toujours sur la mémoire, je reviens à l'écriture de votre nouveau livre, Ewa Rwanda, Lettre aux absents, dans Sirogamba, et sur cette question de la mémoire, une autre voix encore, celle de la danseuse, comédienne, danseuse, chorégraphe Dorothée Munyanedza, que je recevais dans cette émission, c'était en janvier 2023.
Mon grand-père maternel, je ne l'ai pas beaucoup connu, mais celui, le père de mon père, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, à tel point que ça m'arrive parfois de sentir son odeur. Il fumait une pipe, donc j'aimais beaucoup me blottir contre lui quand il racontait notamment des histoires. Et le récit, les récits qu'il a pu nous transmettre, je pense, m'accompagnent encore aujourd'hui et accompagnent notamment mon père, parce que c'est un grand conteur également. Et je me souviens de lui, notamment pendant... qu'on fuyait pendant le génocide des Tutsis en 94, qu'il était devenu menu. Non pas parce qu'il était vieux, mais il y a quelque chose de l'ordre de presque de l'enfant quand mon père le portait, parce qu'il était beaucoup plus vigoureux. Et cette image m'a marquée, parce que notre père nous avait laissé sous un arbre et avait rebroussé chemin pour aller chercher son propre père, parce que mon grand-père s'était non pas égaré sur le chemin, mais il avait décidé de retourner dans son village parce que il y avait une vache qu'il aimait beaucoup, qu'il avait dû laisser, et donc il avait disparu. Donc mon père nous a laissé et est allé chercher son propre père, et en revenant, il le portait vraiment comme un enfant. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais ses récits demeurent, et je pense que c'est ça qui parfois résiste à l'anéantissement. C'est la ce qu'on laisse comme trace, comme voix, comme chant, comme poésie, la voix qu'on porte.
J'imagine que ces paroles de Dorothée Munyanedza font vraiment écho à votre propre expérience d'Orsi Rugamba, d'autant plus avec un père qui a écrit tant de beaux textes.
Absolument, je connais Dorothée, son travail. D'ailleurs, son prochain spectacle s'appelle Umuko, qu'il a encore une fois. C'est un nom d'un arbre. Comme quoi les arbres nous poursuivent, on va finir par planter une forêt.
Oh bah, elles sont belles, les forêts rwandaises. Hein.
Ben oui.
J'ai l'impression que si on crache un pépin, il y a un arbre qui pousse. Là.
Ça pousse tout seul, quasiment. D'ailleurs, je raconte qu'il y a des avocats qui tombent sur le toit à la maison, presque. On a une pluie de fruits. C'est un pays béni, et bien sûr ça me parle, parle beaucoup, ce qu'elle dit.
Comment la mémoire revient par, non seulement les textes, mais les odeurs, les couleurs
Par le rituel, parfois, en fait aussi, ça c'est quelque chose qui est très ancien, essentiel, vous savez, dans le culte des ancêtres, on fait ce que le défunt aimait faire. On peut venir boire le vin qu'il aimait boire. Et donc cette gestuelle, ce que d'ailleurs au théâtre Brecht appelait le gestus, qui peut être la reproduction des gestes du quotidien, qui peut être insignifiant par ailleurs, mais qui permet de retrouver parfois la mémoire du corps, les odeurs. Tout ça nous permet quand même de vaincre, parce que c'est souvent impossible de composer avec cette césure. Si on ne l'habite pas et que la mort paraît comme une chose absolument inéluctable, la vie d'après devient totalement impossible. Donc il y a une césure, il y a une plaie qu'il faut pouvoir combler, et c'est toute la question. Et je crois que les artistes aussi proposent des ponts, une manière de pouvoir peut-être combler pour que la sève continue à couler d'une génération à l'autre.
Les lieux, vous le disiez tout à l'heure, sont évidemment importants. Vous parlez à plusieurs reprises de la maison où les membres de votre famille ont été assassinés. Vous écrivez en vous adressant à votre père dans ses rougambas. Je reviens toujours à Kimi sur tes pas pour me remettre à l'endroit. Mais au fil des années, bon, il y a eu ce premier retour 2 ans après, mais les retours, vous les vivez comment, année après année?
Je reviens tout le temps et je remarque que la perspective change. Un événement recule dans le temps. En reculant, il s'éloigne et on n'en prend pas la même conscience à chaque fois. C'est vraiment à la 25e que j'ai réalisé quelque chose que j'avais pas réalisé pour le coup, que dans mon esprit, par exemple, la Benjamine de chez nous qui avait 7 ans, qui s'appelait Ginny, avait gardé 7 ans. Elle n'avait jamais grandi. Et puis je rencontre un des témoins qui était d'ailleurs, que je salue, une femme qui est venue apporter un témoignage sur une amie d'enfance, avait fait l'école maternelle avec ma Benjamine. Et puis, en la regardant, je prends tout de suite conscience que tiens, voilà, elle serait grande comme ceci. Et elle avait déjà de ses enfants, cette amie qui est venue. Et je me dis, ma petite sœur de 7 ans aurait peut-être 2 enfants, voire plus, et quid alors des autres qui étaient beaucoup plus grands. Et j'ai vu le nombre d'absents était beaucoup plus grand, évidemment, que les 8 personnes qu'ils ont tuées chez nous. Alors, la question du temps. Quand je reviens à la maison systématiquement, c'est parce qu'il y a aussi des choses immuables. Le rythme d'une journée est immuable. Tout ce qui a trait à la nature est souvent la même chose. Alors il y a les sons, il y a la vue qui est la même. Depuis la maison, je regarde la colline d'en face qui est la colline de Kiovu. Il y a les oiseaux qui viennent systématiquement à la pointe du jour et c'est le même chant. Et c'est comme des Madeleines de Proust, forcément, ça remet la mémoire, ça permet de faire remonter la mémoire. Mais il y a une autre mémoire que moi je voulais aussi retrouver en allant là, parce que j'y vais pour retrouver mon père, le poète. Pourquoi ? Parce que la langue, dans un crime idéologique, est corrompue par l'idéologie.
Vous dites que, quelque part, la langue est la première chose qu'on perd dans une guerre.
Totalement. Et comme on perd la langue change le regard, parce que quand le mot change, on ne regarde pas. Et un poète, c'est quelqu'un qui travaille la langue, qui travaille les mots, et c'est de retrouver la langue première chez lui. Donc j'y vais pour lire, le lire et retrouver cette belle langue rwandaise qui, comme je le dis, est un art achevé de la maîtrise de soi. Et c'est une langue, malheureusement, comme dans toutes les langues, qui a aussi été corrompue, dans laquelle on a prononcé des diatribes, de retrouver l'endroit de noblesse de la langue après. Et à cet endroit, c'est vraiment la raison de ce pèlerinage tous les ans.
Bien, un deuxième choix musical pour conclure notre entretien sur le présent et l'avenir du Rwanda, parce qu'on va entendre votre nièce, Tania Rugamba. Peut-être qu'on va écouter cette chanson et vous nous direz quelques mots ensuite.
Isi na mayobera iratugota ikatumira ubunguri ijuru ryo ni ryugurura marembo yaryo mbese mbwira nzabona umwanya unogeye ese uriya kera nitwibaruka tugacutsa tugakuza tuzatanga urugero niba kandi uri intore ifuna sambwe jya urinda umubyimba utoze unawukunde naho wowe inshuti yanjye magara sinakwibagiwe n'ibihe cyangiza ukundi byose kikubera imerekeza y'ubuzima ntibukubana
C'est beau et c'est important de finir cet entretien avec elle, une enfant d'après, votre nièce,
oui.
Tania Rugamba.
Totalement. C'est aussi un clin d'œil à mes parents, de leur dire « Vous avez eu une descendance et voilà un enfant qui est né après que vous n'avez pas connu. C'est la fille aînée de mon frère aîné. Donc c'est la première des petits-enfants de cette famille. » Et comme dans toutes les philosophies, dans toutes les cultures, la progéniture aussi, la réponse et la victoire sur la mort.
Merci infiniment d'être venu nous parler ce soir d'Orsay Rugamba, alors que vous venez de publier Ewa Rwanda, l'ère du Rwanda.
Hein, en Swahili.
Traduction en Swahili, lettre aux absents chez J.C. Lattès. Merci à vous.
Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Le 1er mai 1988, le New York Daily News consacrait son édition à l'explosion de l'avion Aloha Airlines 243 et au sauvetage miraculeux de la quasi-totalité de ses passagers. Le journal choisit de titrer son édition d'après la réaction d'un des survivants, Only God Was Above Us. 36 ans plus tard, les New Yorkais, Vampire Weekend, décident de nommer leur cinquième album studio d'après ce titre aux allures de mantra. Chouchou de la presse musicale depuis leur début fracassant au milieu des années 2000, le groupe, mené par sa tête pensante, Ezra Koenig, n'a pas vécu d'explosion en plein vol, loin de là. Déconcertant, de régularité, d'inventivité, il manie aussi bien les préceptes des Beatles que les fondamentaux du hip-hop new-yorkais. Plus cérébral que bon élève, Ezra Koenig chante l'espoir et la tristesse, des thèmes universels auxquels il se raccroche avec une évidence saturée de sophistication. Ce nouvel album, enregistré à New York, Los Angeles, Londres et Tokyo, se fait la carte d'une modernité au grain légèrement suranné. Voici Ice Cream Piano, notre son du jour.
Fuck the world. You said it quiet. No one could hear you. No one but me. Cynical. You can't deny it. You don't want to win this war. Cause you don't want the peace. Armistice. We never tried it. You're a soldier.
I'm screen piano. I softly reach the high note. The words don't recognize a singer who won't sing.
C'était Ice Cream Piano de Vampire Weekend. Le groupe sera en concert à l'Adidas Arena à Paris le 13 décembre.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je me trouve ce soir en Anjou, dans l'ancienne abbaye royale de Fontevraud. Le lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a été transformé en centre culturel en 1975 et depuis 2019, l'abbaye s'est lancée dans un programme de refonte des 6 cloches de son abbatiale qui avaient été retirées à la Révolution. Alors la 5e cloche est justement arrivée à l'abbaye il y a quelques jours, mais avant d'aller la voir, petit récapitulatif historique avec Julien Bertreux.
Alors je vous souhaite déjà la bienvenue ici donc au cœur de l'Anjou, puisqu'on est au sein de l'abbaye royale donc de Fontevraud, qui est une abbaye située à peu près une quinzaine de kilomètres de Saumur.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques repères historiques pour mieux comprendre l'abbaye ?
Alors la première date, c'est celle de sa fondation, une fondation donc qui remonte à l'année 1101, donc qui est due à un fondateur en fait assez exceptionnel qui s'appelait Robert d'Arbrissel, qui est un prédicateur itinérant d'origine bretonne d'ailleurs, et qui a fondé ici une communauté double, c'est-à-dire qui va regrouper à la fois des moines et des moniales, mais du coup répartis en 4 monastères. Et disons que l'originalité en fait de cette communauté double, c'est qu'à l'époque, elle n'était pas dirigée par un homme, mais par une femme. Et on a eu donc 36 abbesses qui se sont succédées donc entre le XIIe siècle et la Révolution française. Dans chacun des 4 monastères, on retrouve finalement la configuration de base, à savoir une église, un cloître, un réfectoire, une cuisine et un dortoir. Donc l'ensemble monastique à la fin de l'Ancien Régime s'étend à peu près sur 45 hectares de domaine, et aujourd'hui on est sur 14 hectares pour à peu près 3 hectares de bâtiments. Ce qui fait que Fontevraud aujourd'hui c'est une des plus vastes cités monastiques d'Europe encore en place.
Et qu'est-ce qu'il advient de l'abbaye au moment de la Révolution française ?
C'est un changement effectivement radical, puisque à la Révolution, donc déjà on nationalise les biens du clergé pour renflouer les caisses de l'État. Et puis quelques mois plus tard, on va purement simplement en fait supprimer les vœux monastiques. Et la reconversion donc pour Fontevraud, en l'occurrence, ça sera sous la forme d'une prison. Et une prison qui va réinvestir la quasi-totalité donc du site, et y compris donc la grande église abbatiale que l'on va découvrir tout à l'heure.
À quel moment on prend conscience de l'intérêt architectural du lieu et donc de la nécessité de le restaurer ?
Alors l'intérêt architectural et patrimonial, il est déjà présent au XIXe siècle, puisque on a déjà l'intervention en fait de Prosper Mérimée qui est présent à Fontevraud en 1834 et qui va classer Fontevraud sur la première liste des monuments historiques en 1840. Après, les premières restaurations en tant que telles ne voient le jour qu'à partir du début du XXe siècle, à une époque où Fontevraud est encore une prison.
Et alors l'abbaye va servir de prison jusqu'en 1963, c'est bien ça ?
Alors en 1963, effectivement, c'est une année importante qui marque la fermeture de la centrale de Fontevraud. Dès la fermeture de la prison, très vite, il y a un choix et un parti pris qui consiste en fait à revenir à l'état monastique. C'est-à-dire qu'on va démolir systématiquement toutes les infrastructures créées à l'époque pénitentiaire. Et disons que la date importante pour Fontevraud, qui va déterminer sa vocation, on va dire, culturelle, c'est 1975. Fontevraud devient un centre culturel de rencontre qui s'appelle en l'occurrence le Centre culturel de l'Ouest, et qui va donc avoir effectivement une impulsion importante au niveau régional, et qui va devenir effectivement une scène culturelle en fait importante, et qui permet effectivement de valoriser en fait ce monument au cœur de l'Anjou. Alors Alors là, on est donc descendu effectivement au sein même de l'abbatiale. Je parle de descendu parce que l'abbatiale elle épouse complètement la topographie du lieu. Et c'est une abbatiale qui est déjà monumentale, avec un volume quand même assez conséquent, hein, puisque si on aime les chiffres, on est à une abbatiale qui s'étend sur près de 90 mètres de long, à 16 mètres de large, et à hauteur des clés de voûte, on oscille autour d'une vingtaine de mètres. Les coupoles que l'on a au-dessus de nous, je dirais malheureusement, ne sont plus celles d'origine, puisqu'elles ont été en grande partie refaites en fait, au début du XXe siècle, à la suite des aménagements pénitentiaires qui avaient donc réinvesti donc, l'intérieur de l'abbatiale, puisque durant la période pénitentiaire, on va accueillir sur le site jusqu'à plus de 2000 détenus, et donc du coup, les ingénieurs avaient optimisé au maximum les capacités d'accueil, et en optimisant, en fait, dans le cas présent, le volume jusqu'à hauteur du faîtage, jusqu'à hauteur des charpentes. Donc les ingénieurs avaient purement et simplement arasé l'ensemble des coupoles pour créer donc 5 niveaux de plancher jusqu'à hauteur en fait des charpentes.
On voit là au centre de l'abbatiale des statues funéraires. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il s'agit ?
Alors, au milieu de la nef, on a mis en majesté effectivement 4 sculptures funéraires qui représentent effectivement les premiers donateurs de Fontevraud, avec des personnages quand même emblématiques. On pense en particulier donc au gisant d'Aliénor d'Aquitaine, qui a cette particularité d'avoir été reine de France, puis ensuite reine d'Angleterre.
Et on aperçoit aussi des statues contemporaines à différents endroits, dans l'abbatiale. Peut-être vous pourriez nous expliquer ce qu'elles font ici ?
Alors l'art contemporain est au cœur en fait du projet également aussi de Fontevraud effectivement, et l'intérêt en fait de ces artistes, c'est qu'ils mettent en valeur en fait une lecture historique également en fait du lieu, puisque chaque production a un lien avec l'histoire du monument, alors qui peut parfois peut-être un peu plus ténu, et il y a un projet qui associe à la fois histoire et art contemporain, qui est un projet campanaire, et Nicolas va pouvoir d'ailleurs nous en parler.
Bonjour. Donc, je suis Nicolas Dupont, je suis conservateur du patrimoine à l'abbaye royale de Fontevraud. Et en effet, je vais vous parler de ce projet majeur pour l'abbaye, qui est la recréation de cloches pour Fontevraud. Vous imaginez qu'à la Révolution, l'abbaye a été en effet pillée et les cloches ont été fondues pour en faire de la menumonnaie. Et il y a maintenant 5 ans, Emmanuel Morin, le directeur artistique de cette abbaye, a eu cette intuition géniale de se dire mais finalement dans cette abbaye il manque quelque chose, il manque le son, et ce son il était essentiel puisqu'il rythmait tout simplement la vie des moniales et des frères. C'est un projet très intéressant qui pour moi est vraiment le symbole de ce que doit être Fontevraud, d'allier à la fois l'histoire, les métiers d'art, puisqu'on a travaillé avec une fonderie Cornillavard qui est située à Villedieu-les-Poêles, pas très loin du Mont Saint-Michel. Et chaque année, on confie le design de la cloche à un artiste différent. Et ces cloches, on les a présentées à l'arrière de l'église abbatiale, au-delà du chevet, sur une colline, sur un promontoire. Et le visiteur peut finalement redécouvrir pour l'instant 5 des 6 cloches. Et chaque cloche porte un nom qui illustre un des grands personnages de cette abbaye.
Est-ce qu'il est prévu, à terme, que les cloches rejoignent le beffroi de l'abbatiale ?
Non. Dans la chambre des cloches, c'est vrai qu'on est, sur un clocher qui est déjà très ancien. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, mais les cloches en mouvement, c'est plusieurs dizaines de tonnes qui sont en mouvement, donc avec aussi un effet cinétique, qui pourrait quand même fragiliser aussi le clocher.
Alors même si ces cloches ne sont pas installées dans le beffroi, est-ce qu'on peut quand même les entendre sonner ?
Oui, bien sûr. Donc, elles sont installées à l'extérieur. Elles sont entourées d'un dispositif qui est un abat-son, hein, comme il y a dans les clochers. Et en effet, elles sonnent. Et je dirais, on a été même plus loin, puisque chaque année, un compositeur est invité à composer une sonnerie spécialement pour Fontevraud.
On se trouve dans les jardins de l'abbaye, on est juste à côté de la dernière cloche. C'est la dernière cloche qui vient d'arriver, c'est bien ça ?
Oui, je dirais en effet, c'est la dernière née. Elle s'appelle, comme je le disais tout à l'heure, Julie, du nom de Julie Dantin, la dernière abbesse de Fontevraud. C'est la plus petite des cloches de Fontevraud. Elle ne pèse que 610 kilos. Et elle a un décor très précieux qui évoque justement le train de vie aussi de ces dernières abbesses de l'ancien régime, où il faut s'imaginer qu'à Fontevraud est devenu une sorte d'annexe presque de la cour de Versailles. Ce qui est agréable aussi pour le visiteur, c'est vraiment de toucher la matière. Et puis, on a rarement l'occasion de toucher aussi une cloche en mouvement. C'est-à-dire que quand le marteau a teinté la cloche, le visiteur peut apposer ses mains sur le bronze et sentir la vibration qui est finalement la vibration du son. Et ça, c'est vraiment une expérience, je dirais, quasiment unique qui se fait à Fontevraud.
Suite du Grand Tour, demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, direction Roubaix, à la piscine, pour visiter l'exposition Les Enfants Impressionnistes. Et merci à Marceau Vassy pour la prise de son.
Et merci à vous, Marie, qu'on retrouve demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche, Emma Ruberti et Jeanne Agrapard.